clin d'œil aux paroisses. Irène Droit.
Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Vincent Bru. Monsieur le pasteur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici. Les auditeurs vous connaissent déjà, on ne vous présente pas, vous faites des cycles bibliques. C'est d'ailleurs ça qui a attiré fortement mon attention pour vous demander de venir dans cette émission. Et vous êtes pasteur de l'EREI. Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors EREI signifie Église Réformée Évangélique Indépendante.
Ça veut dire que vous n'êtes pas un pasteur de l'Église réformée de France, ERF. Attention, nuance.
Exactement, il s'agit de deux unions d'églises bien distinctes.
On trouve des lieux de culte implantés où pour l'EREI ?
Alors pour l'EREI, en région parisienne, il y a trois paroisses, dont une à Paris, Intramuros, dans le 15e. Et les deux autres se trouvent à Massy et à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Et à Paris, c'est 105 rue de l'Abbé Roux,
le
dimanche à 15h ?
Le dimanche à 15h.
Les autres adresses, on les trouve dans l'annuaire de la France protestante ?
Soit dans l'annuaire de la France protestante ou bien sur le site internet de notre union d'église.
Qu'on peut donner tout de suite,
oui,
si vous voulez.
Oui, je pense.
EREI.free.fr.
C'est cela.
C'est ça. Alors, après toutes ces précisions très administratives, l'EREI existe depuis quand ?
Alors, en fait, c'est une union d'église qui existe depuis 1938,
oui.
Date aussi de la constitution solennelle de l'Église réformée de France.
Oui, puisque quand je suis venue dans votre paroisse voir comment se déroulaient les cultes, et je les en remercie au passage, vos paroissiens m'ont accueilli à bras ouverts, tout le monde m'a sauté au cou en me disant « Ah, vous êtes de l'Église réformée de France ERF, nous sommes désolés pour la scission de 1938
ah. ».
Alors, quelle est-elle cette scission de 1938 ? Racontez-nous.
Eh bien, pour faire simple, avant 1938, il existait deux unions d'églises réformées en France. Il y avait l'Union des Églises Réformées avec 150 églises environ,
oui.
Et puis l'Union Nationale des Églises Réformées Évangéliques avec approximativement 450 églises.
Donc beaucoup.
Plus nombreuses, effectivement. Oui. Et la première union d'églises était, disons, très marquée par le libéralisme théologique, oui. Lui-même marqué par la philosophie des Lumières, par le rationalisme, plus tard par le positivisme.
Alors, pour nos auditeurs, voudriez-vous nous en dire un peu plus sur le libéralisme théologique ?
Oui, c'est simplement le fait de réinterpréter le christianisme,
oui.
Sur la base de la raison et d'une philosophie qui se voulait résolument rationaliste, c'est-à-dire qui avait fortement tendance à évacuer les mystères, et donc le surnaturel.
Oui.
Ce qui impliquait une contestation, entre autres choses, de la naissance virginale de Jésus-Christ ou de sa résurrection corporelle d'entre les morts,
oui.
Et d'un certain nombre de faits chrétiens auxquels les églises réformées évangéliques demeuraient fermement attachées,
oui.
Par le biais notamment de sa déclaration de foi qui date de 1872 et qui affirmait très très clairement,
oui.
D'une part l'autorité souveraine de la Bible en matière de foi et de vie, et le salut par la foi seule, la foi en Jésus-Christ. Alors, ce n'était pas une nouveauté, puisque cette déclaration de foi s'appuyait résolument sur la confession de foi de La Rochelle,
oui,
qui est la confession de foi des églises réformées en France,
oui.
Depuis 1559, et qui est de la plume de Calvin, d'ailleurs, pour la plupart des articles.
Tout à fait. Et c'est là qu'on se rejoint avec joie, parce que la confession de foi de La Rochelle, il faut quand même le rappeler, même si nous, réformés de l'ERF, avons tendance à donner de multiples confessions de foi diverses et variées,
oui.
C'est toujours en vigueur, la confession de foi de La Rochelle reste la confession de foi de l'Église réformée de France.
Exactement, je pense que c'est très
c'est
bien de la rappeler, elle n'a jamais été contestée.
C'est l'affirmation claire et nette de la réforme, c'est d'ailleurs ça qui avait éveillé mon attention particulièrement dans une de vos prise de parole, c'est que je me suis dit où sont passés les calvinistes, et là en vous entendant je me suis dit il reste quand même des personnes qui citent Calvin,
mm-hmm.
Et qui citent la confession de foi de La Rochelle. Là, revenons à 1938 là,
oui.
Dites-moi, que s'est-il passé en 1938 comme point de différence entre le RF, Église réformée de France, et votre Église, Église réformée évangélique?
Eh bien simplement ce qui déjà a amené à la fusion d'un certain nombre d'églises pour constituer l'Église réformée de France,
mmh.
Cela a été le souci de l'unité dans un contexte particulier, puisque ça s'est passé après la Première Guerre mondiale, qui a été marquée par une véritable hécatombe humaine, mais aussi par un rapprochement vécu au niveau notamment de l'aumônerie aux armées et d'autres circonstances qui, du coup, ont amené un rapprochement des dénominations, des églises, et la volonté de ne plus constituer, en fin de compte, qu'une seule église sur la base d'une déclaration de foi. Alors, où se situe le hiatus? C'est voilà. Que cette déclaration de foi de 1938, que j'ai d'ailleurs là devant les yeux, reprend dans les grandes lignes la déclaration de foi de 1872, qui était donc, je le rappelle, la déclaration de foi de l'Union des Églises Réformées Évangéliques. Elle est pour l'essentiel tout à fait dans la même ligne, mais les libéraux à l'époque avaient exigé qu'on adjoigne à cette déclaration de foi le fameux préambule. Et ce préambule posait problème à un certain nombre de pasteurs et de laïcs, puisque, et je peux vous le citer là, le préambule dit « Sans vous attacher à la lettre de ces formules, les formules de la déclaration de foi, ça s'adresse au ministère, au candidat pasteur, vous proclamerez le message de salut qu'elles expriment, ainsi sera maintenue la prédication fidèle de Jésus-Christ, etc. etc. » Donc c'est cette simple phrase, au fond, qui a posé, au fond, qui a légitimé dans l'esprit de ces quelques communautés, il y en avait une cinquantaine à l'époque, la nécessité de maintenir fermement une confession de foi qui ne soit pas simplement au niveau de la lettre, qui ne soit pas facultative, qui ne soit pas simplement une adhésion d'esprit ou à l'esprit de la confession de foi, mais aussi à ses formules.
Alors là, j'ai envie de me faire l'avocat du diable libéral un petit peu, en disant, si on ne s'attache pas à la lettre des formules de notre propre confession de foi, c'est peut-être bon signe, parce que la formule de notre confession de foi est forcément humaine et rédigée par nous-mêmes. En quoi est-ce qu'elle devrait faire autorité absolue?
Je répondrai à cela que, de toute façon, nous n'avons pas d'autre possibilité que d'exprimer humainement ce qui nous paraît être la vérité de l'Évangile. La question est de savoir si chacun dans l'Église vient avec son propre credo, avec sa propre foi, ses propres convictions, ses propres interprétations d'Écriture, et où on considère que toutes ces interprétations se valent, et donc ce qui implique une relativisation de la vérité, et un refus de reconnaître à la vérité un caractère normatif et objectif, ou alors on considère qu'il existe et qu'il doit exister une foi normative. Et au fond, l'idée des réformateurs, en rédigeant notamment les confessions de foi, mais aussi les catéchismes, c'était de dire, bien sûr, vous avez le libre examen, bien sûr, il vous faut vérifier par vous-même dans l'Écriture si ce que vous entendez le dimanche au culte est conforme à ce qui est écrit, mais c'était aussi pour dire, attention, il ne s'agit pas de croire n'importe quoi, il y a quand même une foi qui doit être crue et confessée par toute l'Église. Et si vous lisez la confession de foi de La Rochelle, vous verrez qu'elle est quand même très détaillée et qu'elle affirme,
beaucoup de choses. Beaucoup de force, c'est vrai.
Et notamment, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, l'autorité souveraine de l'Écriture en matière de foi et de vie. L'Écriture, parole de Dieu.
Que l'Église réformée de France, l'autorité de l'Écriture ne remet pas en cause. Vous parliez tout à l'heure de l'autorité de la Bible et du salut par la foi seule, par la grâce seule reçue par la foi, c'est bien aussi la base de tout le protestantisme, ça.
Effectivement. La seule différence, c'est plus une différence d'ordre ecclésiologique, c'est-à-dire une certaine compréhension de l'Église, puisque pour ce qui est des églises réformées évangéliques depuis 1938, l'idée c'est de mettre ensemble des pasteurs qui partagent sur l'essentiel la même foi. Voilà. Et donc au fond il y a un attachement là à la confession de foi, non pas qu'on soit nécessairement d'accord sur tout, il y a une certaine pluralité, mais affirmer les grands faits chrétiens. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, alors là on peut être d'accord ou pas, on respecte, il faut se respecter mutuellement. Mais l'idée, c'est que, au fond, un pasteur qui remettrait en question ce qui, pour nous, est un fait chrétien, j'allais dire, qui fait vraiment partie du noyau dur de la foi, tel que la résurrection du Christ, ou le salut par la foi, ou la naissance virginale du Christ, la pleine divinité
ou
du Christ, la toute-puissance de Dieu, la Trinité.
On n'entend pas jamais un pasteur réformé au ROI dire Dieu n'est pas tout-puissant.
Certainement
c'est
pas.
C'est ce qui m'a attiré chez vous.
Oui, en tout cas, bon, ça, c'est. Évidemment, il n'y a pas non plus d'église parfaite, en tout cas, quelqu'un qui remettrait en question ce qui nous paraît être l'essentiel de la foi ne pourrait pas être pasteur dans notre union d'église, puisqu'on refuse la pratique et la notion de pluralisme
c'est ce qui
met ensemble des interprétations qui qui peuvent être contradictoires.
Je comprends. C'est ce qui différencie le courant protestant libéral de celui des réformés confessants. C'est comme ça
que je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Mais il faut quand même être honnête. Il ne s'agit pas non plus de dire que l'Église réformée de France ne comprend que des libéraux et les RI ne comprennent que des pasteurs confessants. Bien évidemment. En tout cas, l'Église réformée de France a fait le choix d'admettre en son sein non seulement des pasteurs de conviction classique, réformée classique ou évangélique, mais aussi des pasteurs de conviction plutôt libérale. Voilà. Et c'est ce choix-là, si vous voulez, que les églises réformées évangéliques en 1938 et aujourd'hui encore ont refusé.
Donc le contenu de la foi auquel vous tenez, et souvent c'est ce que j'apprécie en entendant des discours EREI, c'est d'entendre rappeler la confession de foi de La Rochelle, d'entendre citer Calvin au lieu de tenir des discours un petit peu plus neutres, comme quelquefois dans votre église réformée. Le contenu, l'essentiel de la foi, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, comment vous définiriez ? Vous avez déjà parlé de la confession de La Rochelle, du catéchisme de Heidelberg. C'est bien sûr
l'essentiel de la foi.
Oui. Vous l'avez déjà dit, c'est vrai que je me répète un peu, l'autorité de la Bible, salut par la foi.
Évidemment, l'essentiel de la foi, c'est quand même le salut par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de ça, c'est l'Évangile. Mais pour savoir de quoi on parle, de quel salut nous parlons, alors il faut forcément se référer à un texte.
Oui.
Et pour les réformés confessants, le texte qui fait autorité, et qui doit faire autorité dans l'Église, c'est l'Écriture sainte. D'où d'ailleurs, et on reprendra volontiers à notre compte, les grandes affirmations de la Réforme, que sont le sola scriptura, l'Écriture seule, mais aussi le tota scriptura, toute l'Écriture, qu'on oublie souvent, c'est-à-dire qu'on veut bien admettre une référence exclusive à l'Écriture par rapport au catholicisme romain, autrement il ne reste plus grand-chose du protestantisme, mais je crains parfois qu'on oublie aussi le tota scriptura, le fait qu'il faille tenir compte de l'ensemble de l'Écriture et essayer de bâtir une théologie sur l'ensemble de la révélation.
C'est clair que la Bible est destinée à être lue de A à Z et non pas tronçonnée en petits extraits.
Certes. Et aussi tout en évitant la dérive du fondamentalisme, puisque on peut aussi placer dans cette catégorie-là, ce qui serait injuste. Le fondamentalisme refuse de se poser des questions et en général est fermé à tout débat théologique. Ce qui n'est pas du tout notre cas, puisque les réformés confessants disposent aussi d'une faculté de théologie à Aix-en-Provence et il y a là d'éminents professeurs qui ont tous des doctorats et qui connaissent parfaitement les différentes tendances du protestantisme tout en affirmant des positions qui leur paraissent le mieux contribuer à l'édification de l'Église.
Finalement, votre Église porte bien son nom de réformée évangélique, ce qui semble au départ surprenant. Puisque vous n'êtes pas des fondamentalistes, c'est clair, même si peut-être les libéraux pourraient en avoir peur, et vous êtes des réformés un petit peu comme quelquefois on souhaiterait en rencontrer dans le RF, c'est-à-dire des réformés au sens où l'était Calvin un jour.
Des réformés classiques, tout simplement, et il faut rendre justice à l'Église réformée de France, qui compte aussi en son sein des pasteurs qui partagent tout à fait, ou des laïcs qui partagent ces convictions-là, bien évidemment.
C'est pas moi qui vous contredirais pour être membre de l'ERF.
Voilà, j'ai énormément de relations, de contacts, d'amis dans cette église ou dans d'autres. Et bien évidemment, la foi réformée n'est pas l'apanage d'une église, fort heureusement.
Fort heureusement. C'est là qu'on se rejoint sur le pluralisme. Vincent Brune, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'Église réformée évangélique.
Merci à vous.
Si nos auditeurs veulent en savoir un petit peu plus ou assister à l'un de vos cultes, donc le dimanche à 15h, 105 rue de l'Abbé Groux, à Paris, dans le 15e. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci, au revoir.